et on verra que notre abonné du jour a des fonds euros, et ça, c'est une calamité en 2025. Ça me paraît être du suicide complet.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième émission d'analyse de patrimoine avec Valentin Chaponnet. Et aujourd'hui, nous analysons un patrimoine de près de 500 000 euros avec beaucoup trop d'enveloppes, plusieurs assurances vie, une centaine de lignes dans la poche crypto. Et on va voir ce qu'on peut faire donc aujourd'hui avec Valentin. Salut Valentin, ravi de te retrouver.
Salut Sam, bonjour à tous. Ravi de pouvoir analyser un arbre de Noël aujourd'hui.
Donc on part de suite vers le portefeuille qui nous a été communiqué sur Finari, et avant toute chose, l'introduction de notre analysée du jour avec un passage freelance en octobre 2025 à 30 ans. L'objectif est de lever le pied à 40-45 ans en investissant via société suite au passage en freelance sur une SASU. Il dépense peu malgré un bon salaire de 2000 euros de dépenses par mois et il est à environ 60 000 euros brut avant de démissionner, donc un changement assez récent finalement. C'est un adepte du DCA pour la bourse et le graphique sur Finari que vous allez voir dans un instant le montre très bien, avec 1500 euros par mois investis, et notamment sur la crypto, sur lesquels il est sur des cycles donc beaucoup trop diversifiés, comme on va le voir dans quelques instants au niveau du portefeuille crypto. Il a deux appartements en LMNP avec cash flow positif et un client de Finari depuis le tout début avec l'historique qui va bien. Donc sans plus tarder, on passe sur le patrimoine brut. Donc Valentin, comme on le disait à l'instant, un patrimoine de quasi 480 000 euros, on s'approche des fameux 500 000, et quand on regarde en effet la progression sur les années, depuis notamment 2021, donc c'est un investisseur qui a dû découvrir un peu les marchés, notamment sur cette fameuse vague de 2020 et après, et les cryptos y comprises, eh bien on voit qu'on a une courbe petit à petit qui est en train littéralement d'exploser à la hausse, puisqu'en 2021, on avait un patrimoine qui était plutôt à début 2021 à 60 000 euros, et aujourd'hui, à peine 4 ans plus tard, on est en effet autour de 480 000 euros. Donc déjà, qu'est-ce que t'inspire ce patrimoine brut quand on regarde comme ça dans la totalité?
Sur la base de la seule courbe qu'on voit ici à l'écran, on voit un investisseur qui a tout à fait compris comment est-ce qu'il fallait investir, puisqu'on a un DCA qui est régulier, on a une courbe qui est croissante, et finalement, avec assez peu de volatilité quand on dézoome vraiment. Donc, on est sur un marathonien, tout simplement. Tout le monde devrait avoir ce type de courbe sur son patrimoine. Donc, je vous rappelle, hein, quand on investit, surtout sur les marchés financiers, ça se fait à long terme, ça se fait de manière régulière, et c'est un marathon où vous courez, ce n'est pas un sprint. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher de la spéculation à outrance, et cette courbe le montre très bien. Donc, on a un investisseur raisonné qui fait correctement les choses. Et les résultats à l'arrivée sont spectaculaires, puisque effectivement, en l'espace de quelques années, il est quasiment c'est un demi-millionnaire, quoi, on va dire. Donc il est très très bien parti pour aller chercher le million, et il investit de manière tout à fait raisonnée.
On passe à la première ligne, donc l'immobilier, avec, comme il l'a stipulé, deux appartements en LMNP, un premier de 107 000 euros et un deuxième de 75 000 euros. Alors, on a deux lignes assurance vie en dessous, je ne sais pas si c'est lié directement à l'immobilier, puisque oui, c'est des SCPI, donc c'est pour ça très certainement, oui, qu'il l'a inclus dans le patrimoine immobilier. Mais pour l'instant, c'est deux lignes qui représentent 2000 euros et 754 euros. Donc voilà, c'est très certainement de l'immobilier, comme on dit, papier.
Oui, tout à fait. Donc on est sur deux appartements donc en location, et avec de l'immobilier papier dans des contrats d'assurance vie. On peut déjà faire une première digression sur l'immobilier papier, donc sur les SCPI qui l'a sélectionné. On voit qu'il y a d'importantes moins-values. Alors, pourquoi il y a d'importantes moins-values sur ces SCPI-là? Parce que ce sont des SCPI qui sont spécialisés généralement dans le bureau en Ile-de-France ou dans le commerce en France. Et ce sont des SCPI qui ont pris très, très cher sur les deux dernières années. Donc, typiquement, on a Épargne foncière, on a Élysée Patrimoine, on a Patrimo Commerce, etc., qui sont des SCPI franco-françaises. Et donc là-dessus, l'analyse du jour a pris cher. Je vous rappelle, quand vous faites des SCPI, idéalement, il faut aller sur des SCPI qui est dite diversifiée, donc il va aller chercher plusieurs classes d'actifs dans plusieurs pays différents, et il faut absolument éviter ce qu'on appelle les SCPI spécialisés, donc qui n'achètent qu'une typologie de classe d'actifs dans un seul pays. parce que vous prenez in fine beaucoup plus de risques et que la diversification n'est pas si bonne que ça. Deuxième problème, ces SCPI sont logés dans des contrats d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie vont venir vous rajouter une couche de frais sur les SCPI puisque vous allez avoir les frais de gestion du contrat. Donc là, on est sur des contrats Fortuneo et Spirica, donc on va être aux alentours des 0,6% l'année. Deuxième problème qu'il faut que vous vérifiez sur vos contrats d'assurance vie, c'est si vous touchez 100% des loyers, puisqu'il y a des contrats d'assurance vie qui ne distribuent que 85% des loyers et qui prend 15% de commission. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc moi, les SCPI en contrat d'assurance vie, je suis pas très fan. Je comprends la volonté d'optimisation fiscale. Néanmoins, sur les SCPI, vous avez un autre outil pour optimiser fiscalement votre investissement qui est bien plus intéressant que d'aller le loger dans un contrat d'assurance vie. C'est ce qu'on appelle le démembrement. Donc, je ne sais pas si on a le temps de faire une digression sur le démembrement aujourd'hui, mais vous pouvez aller vous renseigner. Et l'idée, c'est d'obtenir une décote sur l'achat de votre SCPI en achetant que la nue propriété sur une durée entre 5 et 15 ans. Et pendant ce temps-là, vous ne touchez pas les loyers, donc vous n'êtes pas fiscalisé et vous anticipez potentiellement une baisse de revenus si vous voulez lever le pied sur votre emploi et optimiser les revenus comme ça. Donc, vous ne touchez pas de revenus pendant la phase où vous êtes actif et vous commencez à toucher les revenus quand vous êtes justement en phase de levage de pied. Et c'est un outil, le démembrement, qui est à mon avis bien plus intéressant que de loger ça dans de l'assurance vie.
Très intéressant. Et donc, aujourd'hui, on a un financement qui est autofinancé déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle puisqu'on a un cash flow positif qui est à autour de 150 euros par appartement, si je ne dis pas de bêtises. On a certes l'emprunt qui va tourner autour de ça, mais ça devrait permettre, notamment au long terme, de donner une force supplémentaire à ce patrimoine qui, dans tous les cas, aujourd'hui, quand on a autour de 500 000 euros comme ça pour le patrimoine brut, avoir 184 000 euros en immobilier, je pense que c'est une projection qui est somme toute réaliste. Donc, notre abonné, en plus, quand on observe ça, ça veut dire qu'il a déjà deux appartements en location, tandis qu'il reste locataire très certainement en personnel, ce qui lui permet là aussi d'être peut-être un peu plus flexible de ce côté-là. Donc, un patrimoine immobilier qui devrait lui apporter dans quelques années, voire dizaines d'années supplémentaires, un petit surplus justement d'un point de vue patrimonial. Et c'est peut-être d'ailleurs une personne qui a pour objectif ensuite de développer son parc immobilier.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup d'immobilier dans ce patrimoine. Moi, l'immobilier en France, je déteste ça. Quand bien même il fait du LMNP, parce que le LMNP, c'est un dispositif fiscal qui est soumis au bon vouloir des politiques. Ça a été raboté plusieurs fois. Je pense que ça va continuer d'être raboté. Donc, il profite effectivement de l'effet de levier français sur de l'immobilier français, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, en termes de durabilité sur le long terme, moi, j'émets de gros doutes sur ce type de stratégie quand on connaît la situation économique, politique et fiscale du pays. Donc, je serai quand même prudent vis-à-vis de ça. Et je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de faire des crédits pour acheter de l'immobilier à l'étranger en faisant des crédits SCPI et en allant acheter des SCPI à l'étranger. Donc comme ça, vous bénéficiez de l'effet de levier de l'emprunt en France tout en étant exposé à de l'immobilier en dehors de France. Et ça me paraît en ce moment être une stratégie plus intelligente que d'aller chercher un ou deux appartements qui en plus sont soumis à des risques de vacances, sont soumis à des risques de squat, etc. On sait que les squatteurs en France sont très protégés. Donc pour moi, voilà, sur la base actuelle, pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Néanmoins, si on reprend le fondamental du pays, je serais quand même beaucoup plus prudent sur ces deux investissements-là.
Très clair. Et sans plus tarder, on passe aux actions et fonds sur lesquels donc, notre analysé du jour a quand même 154 000 euros avec beaucoup de lignes. Et c'est là où il va y avoir un vrai travail de fond, je pense, à faire. Donc, première ligne, on a un plan d'épargne en action, un PEA, avec donc aujourd'hui environ 95 000 euros dessus. Donc, déjà bien avancé par rapport à la fameuse valeur des 150 000. Je précise, 150 000, c'est le maximum maximum que vous pouvez verser, mais vous pouvez le dépasser avec vos plus-values par la suite, bien entendu. Donc, en premier lieu, on a une ligne BNP, donc Easy S&P 500, une seconde ligne, donc la première 37 000 euros en valeur avec une très, très belle plus-value, 45%. La deuxième, un World, non, pardon, j'ai vu Amundi de suite, je fais la liaison avec World, mais c'est un Europe, c'est un MSI Europe, donc 25 000 euros, pareil, 50% de plus-value. On a un Emerging Market, ça, je pense que ça va te plaire, avec plus 34%, 13 000 euros. Le Russell, qui sont les petites caps américaines, avec 10 000 euros, pareil, plus-value de 36%. On a un Small Cap, celui-là, je ne le connais pas, net zéro ambition, peut-être que tu pourras nous en dire plus, pareil en plus-value, et le Topix du Japon. Donc, on a quand même une diversification géographique qui est assez importante pour le coup.
Ouais, alors déjà, ce qui me fait plaisir dans ce portefeuille, c'est qu'on n'a pas d'overlap d'un fonds à l'autre. Donc là, aujourd'hui, le portefeuille est très bien structuré de ce point de vue-là. On a une exposition aux États-Unis, une exposition à l'Europe, une exposition au marché émergent, et on n'a pas d'ETF qui se chevauchent les uns avec les autres. Parce que typiquement, le S&P 500 et le Russell 2000 sont deux indices complètement différents et on ne va pas retrouver du tout les mêmes sociétés dans les deux indices, puisque le S&P 500, on va être sur de la méga cap, là où sur le Russell 2000, on va être sur de la small cap. Donc ça, c'est une très bonne chose. Néanmoins, donc moi, j'ai une première interrogation sur la ligne Emerging Markets, puisqu'aujourd'hui, les Emerging Markets, ça inclut évidemment l'Asie, mais ça va aussi inclure l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et moi, sur les marchés africains et d'Amérique du Sud, je ne suis pas du tout aussi optimiste que sur l'Asie. Donc là, il y aurait peut-être un arbitrage à faire vers un ETF Emerging Markets, mais dédié à l'Asie. Donc ça, c'est disponible sur PEA, il n'y a pas de souci là-dessus. Plutôt que d'avoir un Emerging Markets global où finalement, on va venir englober des pays que moi, je trouve beaucoup moins intéressants. Ensuite, on a l'ETF sur le Japon. Alors, au Japon, prudence, parce qu'il y a eu un gros rattrapage de valorisation sur les deux dernières années. Néanmoins, c'est un pays qui reste en difficulté économique avec une démographie qui est en décroissance, avec de la déflation, etc. Donc là, je pense qu'il a fait une belle plus-value sur le Japon en très peu de temps, parce que le Japon, sur les deux dernières années, c'est vrai que ça a fait beaucoup de performances. Il y a peut-être une réorientation du capital à faire du Japon vers les autres pays asiatiques, donc via un ETF Emerging Asia. Mais sinon, au-delà de ça, le portefeuille me paraît très bien. Et pour répondre à ta question, l'Amundi MSCI EMU Small Cap, donc ça va être en fait des petites caps, des small caps sur le territoire européen. Et là, évidemment, on n'a pas de chevauchement, encore une fois, avec le MSCI Europe qui va concerner des grandes capitalisations. Peut-être un point d'attention aussi, là où sur les grosses capitalisations, les ETF sont tout à fait efficaces, sur les petites capitalisations, personnellement, j'ai tendance à aller chercher des fonds actifs parce que justement, on a des gérants qui vont avoir des convictions et qui vont pouvoir venir beaucoup plus facilement surperformer les indices de référence. Et pour ça, vous pouvez aller regarder, par exemple, le travail de William Higon chez Indépendance AM, où vous avez un fonds français et un fonds européen qui explosent littéralement leurs indices. Donc, peut-être que sur les small caps, j'irai chercher des fonds actifs plutôt que des indices. Mais globalement, le portefeuille est très bien structuré en l'état et ce sont des micros améliorations qu'il peut faire, mais il est sur de bonnes bases.
Bonne répartition donc pour ce PEA et on passe au plan épargne entreprise dans lequel il a quand même 27 000 euros avec donc épargne Action Monde ISR et EG épargne monétaire, donc 24 000 et 3 475 euros, donc liés, je suppose, comme son nom l'indique, à son entreprise.
C'est ça, en fait, si tu veux. Donc sur les PEE, l'entreprise va pouvoir venir abonder l'argent que tu vas mettre dessus. Cet argent, il peut être issu de deux sources, qu'on appelle les primes d'intéressement et les primes de participation. Donc, il travaille dans une entreprise qui fait du bénéfice, puisque si l'entreprise ne fait pas de bénéfice, il n'y a pas d'intéressement, pas de participation. Donc, ça, ce sont des primes que vous touchez tous les ans. Et en fait, si vous versez ces primes sur votre plan épargne entreprise, votre entreprise va pouvoir venir abonder de 10, 20%, etc. l'argent que vous allez mettre dessus. Donc, ça vous permet, si vous voulez, de récupérer de l'argent gratuit. L'avantage du plan épargne entreprise, c'est que si vous versez de l'argent dessus, vous allez payer très très peu d'impôts sur les versements. Là aussi, vous décidez de récupérer les primes sur votre compte personnel, vous allez être soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Quand vous versez sur le plan d'épargne entreprise, vous allez payer évidemment la CSG-CRDS qui fait toujours plaisir, mais sinon, vous n'allez rien payer d'autre. Et ensuite, au bout de 5 ans, vous avez une défiscalisation qui s'opère. Donc, très bonne stratégie d'utiliser le PE. Néanmoins, le fonds monétaire n'a absolument rien à faire ici, puisqu'un fonds monétaire, c'est typiquement le type de fonds qu'on va utiliser quand on va approcher de la retraite, qu'on a un gros plan épargne entreprise et qu'on va vouloir sécuriser les plus-values qu'on a vers le fonds monétaire le temps de partir à la retraite et de sortir l'argent du PE. Donc là, aujourd'hui, il pourrait se contenter de son fonds monde sur son PE et complètement squeezer la partie monétaire pour l'instant, puisque l'analyse du jour a une trentaine d'années, il n'y a pas besoin de monétaire à son âge.
Et d'autant plus que comme il est en train de passer donc indépendant, à voir par la suite s'il garde justement le plan d'entreprise ou s'il doit le clôturer ou je ne sais quoi, notamment suite au départ de l'entreprise.
Tout à fait. Alors, juste sur ce point-là, petite astuce, quand vous démissionnez d'une entreprise et que vous avez un PE, vous pouvez récupérer le PE sans payer de taxes. Donc, par exemple, je vous en parle parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai démissionné d'une entreprise une année et l'année d'après, je touche ma prime d'intéressement et de participation. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est envoyer ces primes sur le PE, sur un fonds monétaire et tout de suite débloquer le PE puisque vous avez démissionné de la société sur laquelle vous avez le PE et donc vous pouvez débloquer le PE sans payer de fiscalité. Alors que si vous récupérez la prime d'intéressement et de participation alors que vous n'êtes plus dans l'entreprise directement sur votre compte bancaire, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Donc, positionner sur le PE et ensuite fermer le PE.
Et c'est là où on en arrive finalement à toutes nos petites lignes. Enfin, la première, elle n'est pas si petite que ça, puisque c'est quand même 18 000 euros avec un plan épargne retraite qui est positionné sur le Core MSCI World et le Emerging Markets. Donc, en soi, ce n'est pas si horrible, je pense, en termes de répartition, mais peut-être un peu trop tôt, comme tu le disais à l'instant, pour commencer à capitaliser sur la retraite, si ce n'est que peut-être l'avantage fiscal. Et ensuite, on verra que on a beaucoup d'assurance-vie avec des toutes petites lignes, 500, 800, 200 euros, et que peut-être là aussi, il y aura un ménage à faire.
Oui, tout à fait. Alors, moi, le plan épargne retraite, j'émettrais quand même un gros doute parce qu'effectivement, donc, il y a un avantage fiscal qui se fait à la rentrée sur le plan épargne retraite et qui est intéressant à partir du moment où votre taux marginal d'imposition dépasse les 30%. Néanmoins, c'est de l'argent qui est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, quand vous avez 30 ans, bloquer de l'argent pendant 40 ans, sur une enveloppe franco-française dépendante de l'âge de départ à la retraite qui va probablement être repoussée parce qu'on a un problème sur le système de retraite, ça je vous apprends rien, ça ne me paraît pas être une stratégie extraordinaire quand bien même vous avez un avantage fiscal à l'entrée. Donc attention à ce point-là, vous pouvez débloquer le PER dans le cadre de l'achat d'une résidence principale ou la fin de vos droits chez France Travail, par exemple. Donc, typiquement, l'abonné du jour qui passe freelance va probablement toucher son chômage pendant un an et demi. Et une fois qu'il aura fini de toucher son chômage, il pourra débloquer son PER. Néanmoins, si vous n'êtes pas dans ces cas-là et que vous êtes jeune, allez faire du PER pour bloquer votre argent sur des dizaines et des dizaines d'années et mettre votre argent à risque en fait d'un changement d'âge de départ légal à la retraite. Ça me paraît être un calcul qui est relativement mauvais, quand bien même ça vous permettrait de défiscaliser. Donc attention malgré tout à ce point-là. Sur la composition du portefeuille en elle-même, j'ai rien à dire. Il a un MSCI World qui vient compléter avec un Emerging Markets. Donc là-dessus, on est sur quelque chose de cohérent. Bien que moi, j'irai personnellement pas chercher du MSCI World. Je découperai en trois avec S&P 500, MSCI Europe et Emerging Markets. Mais ça, vous commencez à me connaître là-dessus. Mais sinon, le portefeuille en lui-même me paraît tout à fait cohérent.
Et donc, que t'inspire toutes ces lignes à répétition entre un perco avec du cap long terme à l'intérieur, une assurance vie avec des SCI dedans à hauteur de 4 000 euros, et pareil, on a 5-6 lignes, un plan épargne retraite additionnel avec du Vanguard, une seule ligne, une assurance vie avec de nouveau de la SCI primoniale 695 euros, on a assurance vie à nouveau iShares MSCI World avec 500 euros, et une Lynxia ou un truc dans ce style, vu le logo Lyxor avec, bah, pareil, 149 €, sachant qu'à la fin, on a un autre PEA et un autre compte titre, mais à, quasiment à zéro. Donc là, voilà, c'est peut-être des lignes qui ont été soldées. Mais peut-être aussi, et c'est ce qui nous manque, c'est là où il faut être le plus précis possible quand vous nous donnez les infos par rapport à votre patrimoine et situation personnelle. D'ailleurs, on va refaire le formulaire pour que ça soit plus précis pour vous. N'hésitez pas à aller le consulter directement dans le commentaire épinglé et description. On va mettre ça à jour là dans les prochains jours. Essayez d'être toujours le plus précis possible, puisque là, bon, certes, les assurances-vie, il y en a beaucoup et on se demande pourquoi avec de si petits montants. Mais admettons que dans un cas un peu extraordinaire, ça soit une personne qui a 30 ans et 3, 4, 5 enfants et qui petit à petit soit déjà en train de mettre tous les mois un petit peu comme ça pour des enfants. Alors, en fonction des lignes justement qu'on a sous les yeux, toi, ça va peut-être plus te parler sur ce qu'il est en train de faire justement. Est-ce que c'est du perso ou est-ce que c'est pour, en vue de transmettre au long terme? Mais c'est vrai que ça laisse quand même se poser pas mal de questions au vu du nombre de lignes.
Ouais, alors, bon, déjà, le premier point, c'est qu'il a un perco. Donc, un perco, ça va être intimement lié avec son PE. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est que pour toucher 100% de son abonnement, il a besoin de mettre une partie de sa participation et de son intéressement sur un perco en plus du PE. Donc, je pense qu'il utilise son perco pour ça. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule ligne là-dessus. Donc, si c'est ça, et je pense que c'est ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Concernant la multiplication des enveloppes d'assurance vie et de PER. Alors là, encore une fois, je pense que ce qui s'est passé, c'est que notre abonné du jour est peut-être un fan d'Emmanuel Petit qui donne régulièrement des plans pour obtenir des bonus sur les contrats d'assurance vie. Et donc, la tentation de ça, c'est d'aller ouvrir les contrats d'assurance vie, de mettre de l'argent dessus et d'obtenir les bonus. Bon, moi, c'est une stratégie que je trouve pas du tout intéressante parce que déjà, ça va vous multiplier les lignes, ça va vous faire perdre du temps, ça va vous bloquer de l'argent sur des contrats d'assurance vie pour aller chercher des bonus misérables de 100-200 €. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça? Je ne sais pas. Et ensuite, on a quand même une composition là de contrats d'assurance vie que moi, je trouve absolument catastrophique. Avec beaucoup de SCI qui sont en moins-value, bien évidemment, puisque, bah, encore une fois, il est sur l'immobilier franco-français qui a perdu de la valeur. On a des OPCI, notamment celle de chez Amundi, qui est absolument calamiteuse. Donc ça, c'est des choses, c'est des produits que vous devez éviter comme la peste. Le diversifier de BNP, c'est exactement pareil. Donc là, on est sur un portefeuille sapin de Noël où c'est un petit peu le cirque à droite à gauche et où en plus on a des produits qui sont pas de bonne qualité. Et je rajoute que ce sont toutes des assurances vie françaises, donc liées au risque de la loi Sapin 2 notamment, qui peut venir bloquer vos avoirs. Et on verra que notre abonné du jour a des fonds euros et ça, c'est une calamité en 2025, bien évidemment. Donc là, il y a un regroupement à faire sur un seul contrat d'assurance vie et potentiellement aller chercher du luxembourgeois vu la volumétrie du patrimoine, parce que là, être sur du français avec des fonds euros, des SCI en 2025 avec tous les risques que connaît le pays, ça me paraît être du suicide complet. Donc là, il y a vraiment un gros ménage à faire. Autant le PEA et le premier PER qu'on a vu sont bien construits, autant là, sur les assurances-vie, c'est un petit peu n'importe quoi et il faut faire du ménage là-dedans.
Très clair, et on passe à la ligne crypto sur laquelle notre abonné a pas mal également gagné, puisque entre 2020 et 2021, il est passé de ses débuts quelques milliers d'euros à une courbe qui a grandi doucement mais sûrement au cours du bear market 2022-2023. Et donc, si on prend les points bas de 2022, justement, où on est quelque part en moyenne autour de 6-7 000 euros, il est quand même monté au printemps 2024 à 54 000 euros. Et l'apogée qu'on a quasiment tous connu sur ce cycle, autour de début décembre 2024, lorsque Bitcoin a franchi pour la première fois les 100 000 $, avec 102 000 euros du côté des cryptos. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui est autour de 60 000, 63 000, et on a deux grandes lignes du côté de Ethereum. C'est les deux plus grosses, hein, avec 25 000 et 13 000. Un éclatement derrière sur AAV, donc un peu de USDC sur Base, du WBTC également sur Coinbase, 4 000 euros. Donc bon, ça, voilà, ça fait une poche de 10 000. Ledger également, avec des anciennes cryptos qui sont pas forcément les plus mauvaises, mais il y a probablement un tri à faire également de ce côté-là. Binance, pareil, on a beaucoup de cryptos différentes avec des fois des poussières, donc peut-être également faire un petit ménage. Mais ce qui nous intéresse surtout, bah, c'est ce qui se passe sur les deux premières adresses, avec sur les deux principales, donc Ethereum, énormément de nouveau de petites lignes. On a affaire à quelqu'un qui très certainement s'est intéressé à la DeFi et à beaucoup de protocoles. Alors, les deux principales lignes, notamment du second portefeuille, voire trois principales, quatre même, on a du Bitcoin, du Chainlink, du AAV et du STETH. Donc, en soi, ce n'est pas déconnant, mais on va voir ensemble, Valentin, que peut-être il y aurait une meilleure répartition à faire en termes de gestion de risque quelque part. Et la toute première ligne, donc, pareil, on est de nouveau sur des dérivés d'Ether, un petit peu d'Avalanche, un petit peu d'Ether normal, non staké. Du CRO de Crypto.com qui a performé récemment, et de nouveau, on part dans des limbes de 500 euros, 200 euros, 130 euros, 60 euros, qu'il va falloir absolument purger pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc, que t'inspire ce portefeuille crypto qui, malgré tout, a connu une ascension fulgurante hein, sur ce cycle? On a l'impression de ne pas avoir performé sur 2022 à 2025 que pour ceux qui étaient sur les alts, mais on a quand même un portefeuille qui a connu un très beau multiplicateur.
Ouais, tout à fait. Déjà, il a fait une bonne performance, donc ça, il n'y a aucun souci, même si on voit un moins 5000 de performance globale, mais je pense qu'il y a un souci avec la gestion de ses liquidités, de son capital de départ, tout simplement. Là, on a encore le syndrome sapin de Noël, hein, même syndrome qu'on a sur l'assurance vie. Donc, je sais pas, peut-être que notre abonné du jour aime collectionner les investissements, mais ça reste néanmoins une mauvaise pratique. Moi, c'est pas très compliqué. Hein. Les quatre meilleures performances qu'il fait, c'est sur Ethereum, Bitcoin, AAV et Link. Donc, pourquoi aller multiplier les lignes alors qu'il aurait pu se contenter de ces quatre-là? Moi, c'est un petit peu comme ça que je gère mon portefeuille. Avec bien évidemment une grosse majorité de Bitcoin. Pour moi aujourd'hui, le Bitcoin est trop peu représentatif dans le portefeuille. Vous devez avoir une majorité de Bitcoin si vous faites de la crypto, ça me paraît évident. Trop de lignes, il y a un ménage à faire, il y a toutes les poussières à dégager, toutes les petites lignes, il faut les virer et soit passer sur de l'USDC pour éventuellement aller chercher des bas de marché ou rentrer sur un cycle de DCA en Bitcoin. Il a quand même plus de 60 000 euros de capital. À partir de ces niveaux-là, il faut commencer à être un petit peu plus prudent avec la gestion de son portefeuille, je pense. C'est pas comme quelqu'un qui aurait que 1000 euros et qui du coup se permettrait de pouvoir les perdre. Là, on est quand même sur une volumétrie qui est différente. Oui, là, tu fais défiler les performances. On voit que tout est au fond du trou, en fait, en dehors des majeurs dont on a parlé, Bitcoin, Ethereum, AAV et Link. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'aller multiplier tout ça. Il perd juste de la performance, il se dilue complètement. C'est un petit peu dommage.
Tout à fait d'accord avec toi. Et au final, hormis le fait qu'il ait performé, en effet, que ça soit sur Ether, on a une très belle ligne également sur le second portefeuille, sur AAV, qui est à 200% de plus-value. Donc, malgré le fait que ce n'est pas là où il a mis le plus, en tout cas en l'état, mais ça démontre que oui, il n'y avait pas besoin de se diversifier autant. Le petit, finalement, pas conseil, mais chose un peu plus judicieuse qu'on pourrait y voir aussi en termes de répartition là, c'est qu'aujourd'hui, on a une personne qui a à peine 1900 euros en WBTC et qui n'a pas l'air d'avoir, même sur les ledgers et tout ça, de Bitcoin pur et dur, même en self-custody. Donc, c'est un peu problématique, je pense. Et même aujourd'hui, quand vous voulez avoir du BTC, partir immédiatement que sur du WBTC, ça rajoute quand même une couche de risque supplémentaire. Donc là, si on pouvait avoir un tout petit tips, c'est peut-être pour plus tard. Et comme tu viens de le dire, pour avoir un patrimoine crypto qui va grossir de la même manière qu'un PEA, doucement mais sûrement, et pas sur des amplitudes telles qu'on l'a affiché ici à l'écran, où on passe de 50 à 200 et où on repasse à 50 en bear market, voire moins parfois, eh bien de tout simplement essayer d'asseoir un petit peu le portefeuille et d'avoir un peu plus en termes de répartition, en effet, de Bitcoin, notamment lors des phases baissières qu'on appelle le fameux bear market.
Ouais, tout à fait. Et là, cette vidéo va sortir au bon moment parce que les marchés crypto ont bien remonté, ils sont très hauts. On voit que pour notre abonné, il est quand même pas très loin de son ATH Wallet. Donc, c'est un bon moment, c'est un très bon moment, je dirais même, pour nettoyer ses portefeuilles, prendre ses profits, dégager les lignes qui ne performent pas, etc. Parce que moi, mon avis, c'est que si votre crypto, elle est à moins 80% aujourd'hui, après toute la hausse qu'on a connue, elle n'ira pas beaucoup plus haut. Donc, il est temps de dégager tout ça et de faire un vrai ménage. Là, aujourd'hui, vous êtes sur un bon moment pour le faire, à mon avis.
Très clair. On passe au livret avec donc l'OCIC, un livret A où on a 23 000 euros quasiment. Donc, je pense qu'il est maxé. Un compte d'épargne 5 100 euros et également du côté de Bourseau, un LDDS à 12 000. Pareil, il doit être maxé et un autre compte d'épargne de 10 000. Donc, on est quand même à 50 000 euros de livret slash épargne de précaution. Et donc, par rapport à l'épargne de précaution, pour un patrimoine donc, sur lequel il nous annonçait 60 000 euros bruts nets par an, qui tombe donc à environ 3 200 euros nets, donc c'est du brut, hein, les 60 000 euros, ça tombe à 3 200 euros nets par mois, ça nous fait quand même beaucoup de mois d'avance en termes d'épargne de précaution. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop de cash là, pour le coup, sur les livrets?
J'ai envie de te dire oui, après, il passe quand même en statut freelance, donc il va avoir de l'incertitude sur sa future activité, il va potentiellement avoir des frais, etc. Donc pour une personne qui sera en CDI à son niveau de vie, oui, évidemment, ce serait excessif, mais sachant qu'il passe indépendant freelance, ça lui fait un bon matelas de sécurité pour se lancer sereinement. Et je pense que c'est exactement ça ce qu'il cherche. Et c'est le plus important, c'est qu'il soit serein dans sa tête au moment de lancer son activité. Donc, si pour lui, être serein, c'est avoir 50 000 euros sur les livrets et on verra, je crois qu'il est aux alentours de 20 000 euros sur les comptes bancaires, ainsi soit-il. Bon lancement d'activité à lui. Je pense que c'est une bonne stratégie.
Yes, c'est vrai que c'est à prendre en considération et aujourd'hui, en effet, si son entreprise fonctionne et que par la suite, ça commence à dégager du revenu, etc., ça lui permettra de continuer à investir dans tous les cas et de potentiellement faire les vases communicants petit à petit délivrés vers des investissements qui rapporteront un petit peu plus. Compte bancaire, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont 3 sur lesquels il n'a rien. Et les 3 principaux, donc CIC, Bourseau Banque et R2JS Consulting, sur lesquels il y a donc 1 000 euros, 3 000, 8 000, donc compte courant, comme on le voyait à l'instant, qui cumule environ un peu plus de 10 000 euros. Pareil, si je m'en fie à ce que tu viens de dire, ça ne paraît pas complètement aberrant de voir aujourd'hui, au vu des revenus qu'il avait, à peu près 2-3 mois, en effet, de cash disponible. Ça peut être aussi du cash dont il va avoir besoin rapidement, puisqu'on ne sait pas quel type d'activité il est en train de lancer. Et vu que c'est à octobre 2025, on est vraiment en plein dedans pour le coup.
Ouais, tout à fait. Il a sécurisé, en fait, si tu veux, je pense, un peu plus d'une année de salaire, ce qui est une bonne pratique quand tu te lances dans une activité. Tu vois comment l'activité se déroule et si ça se passe bien, tu peux réduire la voilure, mais en tout cas, être prudent sur cette partie-là, ça me paraît pas du tout déconnant. Et on peut penser qu'il a beaucoup d'argent sur ses comptes bancaires. Néanmoins, en lancement d'activité, on a beaucoup de frais, il faut faire les statuts, il faut payer le comptable, etc. Donc, c'est bien qu'il ait du cash d'avance pour pouvoir couvrir tous ses frais.
Très clair. On passe donc à la ligne suivante avec autre actif. Sur Finari, n'oubliez pas que vous pouvez inclure absolument tout ce que vous possédez. D'ailleurs, très certainement que prochainement, on aura une petite collab avec Finari qui sont contents qu'on utilise leur solution pour vous faire ces fameuses petites analyses de patrimoine. Et j'en profite d'ailleurs, micro parenthèse, il y avait une ou deux personnes qui disaient dans les commentaires qu'on s'était inspiré de Finari pour nos propres analyses de patrimoine. C'est tout à fait vrai, sauf que nous, on essaie bien entendu d'avoir un petit peu plus de granularité et de profondeur sur chaque ligne et notamment l'aspect crypto, puisqu'on s'adresse principalement à des crypto natifs qui souvent ont gagné un petit peu d'argent en crypto et sont complètement pétrifiés à l'idée justement de faire le rétropédalage pour essayer de placer leur argent. Donc il n'y a pas finalement de bataille entre CM et Finari, bien au contraire, et on essaiera d'avoir cette synergie justement entre nos deux entités. En attendant, au niveau des autres actifs, on a un Girardin 4000 euros, un Scooter 2500, une Omega Vintage 537 euros, une Seiko Présage 325 euros, donc deux montres comme vous l'aurez compris, et enfin une Orient Classic Small Seconde, pareil toujours hein, au niveau des montres, 262 euros, donc autour de 7600 euros pour ces autres actifs. Qu'en penses-tu Valentin?
Alors déjà, les 4000 euros de Girardin sont à retirer. Ça n'a rien à faire là, parce qu'un Girardin, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un investissement en Outre-mer qui permet de défiscaliser et d'obtenir un crédit d'impôt. Néanmoins, cet investissement se fait à fonds perdu. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, s'il investit 4000 euros, il perd ses 4000 euros et il les récupère en crédit d'impôt avec le rendement, donc généralement c'est du 10%, donc il va récupérer 4400 euros en crédit d'impôt. Mais il ne peut pas compter son Girardin dans son patrimoine, puisqu'encore une fois, c'est à fonds perdu. Donc cette ligne-là n'existe pas. Et donc finalement, sur les 7623 euros qu'on voit affichés, il faut retirer donc 4000 euros et donc on tombe à 3623 euros. Bon, le scooter, est-ce qu'on le compte ou pas? Pour moi, ce n'est pas du patrimoine, donc il n'a rien à faire là. Et ensuite, les montres, eh ben, c'est des investissements plaisir. J'en ai une aussi, donc aucun problème à ce niveau-là.
Et c'est des montres qui, dans tous les cas, n'ont pas une cote. Voilà, on n'est pas sur des montres à 5, 10, 50 000. Donc, ça ne fera pas bouger énormément le patrimoine dans tous les cas. Mais ça peut être des fois des bons investissements. J'ai encore vu récemment, pour la petite anecdote, une FP Journe qui se vendait avant le Covid, donc 2018 à 2020, autour de 30, 35 000 euros en Suisse. Et aujourd'hui, elle cote 1 million d'euros. Donc, voilà, il y a quand même quelques montres qui encore tirent leur épingle du jeu et qui étaient des bons tickets de loto, on va dire. Fonds euros, on a 4500 euros, donc sur du Bourso, du Linksea et du Spirica et du Fortuneo. Les deux dernières ont quasiment rien. Là aussi, bon, c'est pas des montants extraordinaires, mais je suppose que tu vas dire qu'il y aurait mieux à faire très certainement que sur du fonds euros.
Alors, moi, le fonds euro, c'est absolument catastrophique. Je ne veux pas voir de fonds euros dans vos patrimoines pour une raison toute bête, c'est que les fonds euros sont constitués entre 70 et 100% d'obligations françaises. Donc, ça vaut zéro. Ça vaut zéro parce que les obligations françaises valent zéro théoriquement puisque l'État français est en déficit chronique depuis plus de 40 ans et donc ne sera jamais en mesure de rembourser sa dette. Donc là, vous investissez sur des produits qui sont soi-disant garantis en capital, ils sont garantis en obligations françaises qui valent zéro sur le papier. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que vos fonds euros sont soumis, je vous le rappelle une énième fois, à la loi Sapin 2 qui peut venir bloquer les fonds euros pendant une durée de 3 mois renouvelables, donc sur une durée de 6 mois en tout, en cas de crise systémique, tension sur les marchés, X ou Y raison. C'est une loi qui peut évidemment être amendée, donc on peut augmenter la durée de blocage et les fonds euros sont impactés par cette loi. Donc les fonds euros n'ont rien à faire dans un patrimoine aujourd'hui quand on sait ça. Si vous avez besoin de sécuriser du cash, vous avez d'autres solutions que les fonds euros. Vous avez des fonds monétaires, que ce soit en Europe, que ce soit à l'étranger, donc aux États-Unis, en Suisse, etc., que vous pouvez utiliser, qui ont exactement le même risque qu'un fonds euro. sur le papier, hein, le risque de marché est le même. Par contre, vous n'avez pas les risques politiques et étatiques que vous avez sur le fonds euro. Donc, s'il vous plaît, je vous le redis, arrêtez de mettre des fonds euros dans vos contrats d'assurance vie. C'est vraiment une classe d'actifs qui ne vaut rien. Et ça peut, le jour où il y a un problème, ça peut vraiment vous mettre en difficulté. Et posez-vous la question de savoir si l'argent que vous avez sur vos fonds euros aujourd'hui vaut la peine d'être perdu ou pas.
Surtout que c'est pour des rendements, la plupart du temps, qui sont vraiment anecdotiques. Hein, quand on voit...
Tu vas avoir... Alors, les meilleurs fonds euros aujourd'hui vont distribuer peut-être du 4%, mais tu as du 4,5% sur du monétaire américain, sur du dollar américain, sur des obligations de la Fed qui vont entre 1 et 6 mois. Donc, où le risque de perte est vraiment très, très faible. Il n'est pas inexistant. Il y a toujours un risque de perte, mais il est quand même très faible. Donc, pourquoi allez-vous bloquer sur des fonds euros? Là, en plus, il va gagner quoi? Il va gagner 2% l'année. Pourquoi allez-vous bloquer sur des fonds euros à 2% sur de la dette française qui vaut zéro, alors que vous pouvez aller chercher du monétaire aux États-Unis ou ailleurs qui va vous rapporter plus et où le risque de marché est moins important, je dirais même par rapport à la France. Il n'y a aucune justification à avoir du fonds euro en 2025 dans son patrimoine.
On passe au crowdlending et on approche petit à petit des dernières lignes avec 2000 euros en crowd, donc sur la première brique et Mintos. Donc, on a 1 500 et 500 euros et un financement participatif sur, là aussi, bon, on a 7 euros. Je pense que, bon, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais vu la petite somme que c'est, ça a dû déjà être soldé dans tous les cas.
Oui, bon, bah là, on a une courbe de crowdlending classique où, au fur et à mesure du remboursement des obligations, on a un capital qui diminue. J'espère pour lui qu'il n'aura pas de défaut parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sur le crowdlending immobilier. La première brique n'est pas épargnée, bien évidemment. Voilà, j'espère qu'il aura la possibilité de récupérer tout son capital et les intérêts qui vont avec.
Et plus globalement, si tu devais donner ton avis par rapport à ce type d'investissement, est-ce qu'aujourd'hui c'est très risqué, moyennement risqué? Enfin, est-ce que pour un patrimoine justement de 500 000 euros, ça devient intéressant de mettre quelques milliers d'euros dessus ou pas du tout intéressant justement au vu de...
L'intérêt du crowdlending, c'est que ça te rapporte, en fait, si tu veux, un taux d'intérêt qui est quand même intéressant sur le papier, qui va généralement dépasser les 10%, qui est évidemment non garanti et le capital n'est pas garanti. Sur des obligations qui sont quand même à échéance moyen terme, puisqu'on va être sur du 24 mois, 48 mois, etc. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vous êtes prêt à perdre 100% du capital pour 11% de rendement à l'année? Pour moi, la réponse n'est pas évidente parce que une risque de perte à 100% du capital est quand même assez peu probable. Vous voyez, si vous allez sur les marchés financiers, vous pouvez vous prendre des moins 50%, mais tout perdre. Si vous achetez un ETF sur le S&P 500, c'est que ce serait la fin du monde et on aurait d'autres problèmes. Par contre, sur le crowdlending, c'est quelque chose qui peut arriver. Si la société qui émet l'obligation fait défaut, vous avez perdu 100% du capital. Donc, pour moi, c'est quand même une classe d'actifs qui est très risquée. Je pense qu'on mesure pas bien le risque. Enfin, là, les gens commencent à le mesurer parce qu'il y a des taux de défaut et donc ils commencent à perdre 100% de leur capital. Donc, attention avec ça. Si vous voulez en faire, c'est parce que vous avez des besoins de distribution à moyen terme sur du rendement. Et dans tous les cas, ça doit être fait sur une proportion minimale du patrimoine. Je pense malgré tout qu'il y a mieux à faire que du crowdlending en 2025.
Ok, très clair. Carte de crédit, une petite ligne à 300 euros. Donc ça, bah, pas grand-chose à dire ou à exploiter. Et on clôture donc avec les deux prêts. On aurait pu d'ailleurs et dû le traiter en amont en même temps que l'immobilier. Mais au moins, la boucle est bouclée. On clôture avec, en revenant au départ. On a deux prêts donc amortissables, dont un qui a été remboursé déjà à hauteur de 13% et avec un taux d'intérêt de 1,25. Donc, c'est la bonne époque autour justement des taux très très bas et un peu plus récent avec seulement 3% remboursé et là on est à 3,45 avec des mensualités donc respectives de 500 euros et 300 euros et un capital restant dû de 96 000 et quasi 69 000. Donc c'est lié directement aux deux fameux appartements qu'on a traités au début.
Ouais, tout à fait, bah, des deux lignes classiques qui financent des biens immobiliers qui ont un cash flow positif. Donc, encore une fois, sur le papier, pas grand-chose à redire. Néanmoins, ça finance de l'immobilier en France. Et donc, vous connaissez mon avis là-dessus.
Yes. Donc, un patrimoine qui, finalement, en seulement 4 ans de temps, est passé rapidement de quelques milliers d'euros à quasi 500 000 euros. Donc, très largement porté, notamment par ces deux acquisitions immobilières à hauteur de proche de 200 000 euros. Un portefeuille crypto qui, malgré le yo-yo et les aléas du marché, a été également porteur. Et un PEA, aujourd'hui, qu'il faut le saluer, à une diversification géographique qui est quasi parfaite. Et on espère, bien entendu, que les petites améliorations ou tips qu'on vous a suggérés aujourd'hui et les pistes justement de réflexion qu'a émise Valentin vous permettront d'y voir un peu plus clair justement pour des patrimoines qui, des fois, même si vous commencez justement avec vos premiers 5 000, 10 000, 20 000 euros d'investissement, vous voyez que sur une période de temps de 5 ans, 10 ans, eh bien, on peut tout à fait avoir quelque chose de convenable. Alors là, on a une personne quand même déjà aujourd'hui qui est bien diversifiée et qui sait ce qu'elle fait. C'est pas un tout petit investisseur, hein, bien entendu. On n'est pas sur un petit patrimoine ni sur des revenus qui étaient faibles pour le coup, mais ça démontre que pour qui veut à la fois s'instruire et passer à l'action, eh bien, en effet, il y a toujours des choses à faire. Et je te laisse, bien entendu, Valentin, le mot de la fin.
Ouais, si je peux donner peut-être un dernier tips, la grande classe d'actifs qui est évidemment absente de ce patrimoine, c'est les métaux précieux et notamment l'or. Donc, il y a quelque chose à aller explorer là-dessus, d'autant plus qu'on l'a vu, il y a de l'optimisation à faire sur les fonds euros, sur le crowdlending, sur une partie des assurances vie, etc. Donc, une exposition à l'or pourrait tout à fait faire sens dans le cadre de ce patrimoine. Poire pour la soif, encore une fois, hauteur de 5% par exemple du patrimoine, ça pourrait être tout à fait logique et ça permettrait d'ajouter de l'antifragilité à ce patrimoine qui serait bienvenue, surtout dans la période un petit peu agitée qu'on connaît.
En tout cas, encore un beau patrimoine en plein développement. On te souhaite bien entendu à l'analyser du jour tout le meilleur pour ta création d'entreprise. Et n'hésite pas à venir nous reparler justement dans 3, 6, 12 mois pour voir un peu où tu en es et pour refaire une analyse de ce patrimoine. En attendant, n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description et vous pouvez retrouver Valentin sur les réseaux du côté de X et du côté de YouTube sur lequel tu fais tes propres vidéos et tu es également, donc, on le rappelle, conseiller en investissement financier. On peut te consulter pour justement donner une bonne dynamique à nos patrimoines. Merci encore, Valentin, pour ce quatrième épisode qui était très enrichissant. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment le retour de Marc qui reviendra de Token 2049. Donc, en ce moment, il y avait une conférence côté asiatique à Singapour, si je ne dis pas de bêtises. Et donc. Ouais. Et donc voilà, on aura le retour du trio endiablé et merci encore Valentin, c'était très cool et on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.
Merci à toi Sam, à bientôt.